le monde il est beau, tout le monde y réagit.
Si, comme le dit le texte du billet précédent, des convergences historiques ont marqué l'évolution sociale du saut de la solidarité entre étudiants progressistes et prolétaires réactifs, la difficulté actuelle semble bien résider dans une possibilité de reconstitution de forces sociales alliées analogues. Le nivellement des forces résistance actuelles vers le consensus, le tiède comme il y est dit, trouve peut-être malheureusement bien sa source dans une configuration sociale présumée et définie sous l'espèce d'une seule classe moyenne. Mais celle-ci, à l'éclairage de nouveaux termes émergents tels que classe moyenne supérieure, moyenne, moyenne, moyenne inférieure, pouvant aller pourquoi pas jusqu'à moyenne précaire, montre en creux, outre une imposture de langage, non seulement que les classes sociales perdurent en termes de qualité de vie, mais que, de plus, la seule moyenne qui les relie est une commune envie moyenne de changement. Celle-ci sans doute générée par une évolution effective vers une amélioration pouvant être qualifiée, d'un point de vue moyen, de médiocre mais toujours suffisante. Dans la période montante d'un libéralisme devenant sauvage, l'album de bande dessinée d'Astérix intitulé Obélix et compagnie nous enseignait déjà, dans un registre satirique, les dangers que pouvaient constituer les travers du caractère humain égoïste lorsque celui-ci est encouragé au détriment d'une conscience de solidarité entretenue à des fins de vie communes définies en tant que civilisée. Mais si effectivement les tensions qui existent chez l'être humain entre les notions de bien et de mal, d'égoïsme et de solidarité et d'évolution matérielle ou spirituelle existent naturellement dans ces gènes, il ne faudrait toutefois pas oublier que le projet de civilisation, fierté des nations occidentales et toujours clairement affirmé de nos jours de part et d'autre de clivages partisans, est inscrit dans une prétention à savoir faire passer l'humain d'un état de barbarie à celui d'un humain capable de s'élever pour parvenir à s'éloigner de sa réputée cruauté dans laquelle le maintenait son état sauvage. Cependant, le processus d'évolution actuel, principalement matériel, semble se faire au détriment d'une évolution spirituelle. L'homme économique semble être désormais en mesure de dépasser, et de loin, en méchanceté tout autant qu'en fourberie, les ravages que pouvait causer la cruauté animale de notre ancêtre simiesque dont l'animosité finira bientôt par ressembler à celle d'un enfant de cœur. Mais l'enfant de cœur n'est pas dépourvu de cruauté, on lui apprend principalement à savoir la masquer. Est-ce à dire que là réside le bienfait de la civilisation et que dans nos gènes, désormais, s'inscrirait principalement la maîtrise d'hypocrisie? Une cruauté tacite, en somme, qui remplacerait la précédente et, mesurée à la dimension de l'égoïsme, qui pourrait bien se révéler pire que la précédente. À observer les dégâts que génère actuellement le consensus social qui s'efforce de les diluer dans la trame des obligations sociales et des contraintes de survie contemporaine, il semblerait que l'on oublie au passage que la rengaine civilisatrice se trouve toujours claironnée au centre d'une organisation sociale pourtant de plus en plus égoïste et barbare. Dès lors, comment générer une convergence vers une sortie du système dans un contexte de répartition des classes sociales confus, où chacun mesure en termes de perte de privilèges matériels ce qu'il veut ignorer en termes de gains sur le plan d'une qualité de vie plus essentielle? Sur la balance des points décisifs, c'est évidemment toujours le rationnel qui l'emporte, celui-ci formé dès la plus tendre enfance par le conditionnement social, parental et éducatif, celui-ci constituant sans doute le plus bel exemple d'univers disciplinaire concentrationnaire hypocritement défini sous l'espèce instrument de paix par un enseignement pour l'égalité des chances. La question est donc désormais de parvenir à extraire la vie spirituelle de sa dimension actuelle où elle se trouve confinée dans les domaines annexes du rééquilibrant, du littéraire distractif, de l'harmonisant social lénifiant en somme, dans lequel l'enferme la culture pour le faire réapparaître en tant qu'élément essentiel de l'existence humaine, ce qui pourrait lui garantir une attention de notre part aussi grande que celle que nous accordons actuellement à nos conditions de vie matérielle. La vie spirituelle ne doit désormais de ne pas rester cantonnée dans sa fonction d'auxiliaire de service à faire tourner la machine à produire. Notre origine nous a fait découvrir le monde à travers notre double prisme spirituel et matériel, et cet équilibre doit être restauré, et pas dans le chant d'une culture qui se borne à le chanter. L'urgence est ici, et cette balance-là n'est sans doute pas plus celle du pouvoir que celle du vouloir. Que voulons-nous au juste faire de ce monde? C'est sans doute à l'urgence de répondre à cette question dans la pression que représente le chaos social actuel du monde que certaines positions se radicalisent sous l'angoisse de constater qu'une volonté générale d'y répondre n'existe toujours pas. À l'instar du monde politique d'ailleurs, censé donner l'exemple en termes de courage et de volonté, ce qu'il ne fait que très certainement plus ou que très faiblement. C'est de cette question dont traite l'article de Serge Halimi, paru dans Le Monde diplomatique de mars 2016 et intitulé « Le temps des colères ».
Sur fond de crise économique persistante dans la plupart des pays occidentaux, l'émergence de nouvelles forces contestataires témoigne d'une grande impatience politique. Elle se transforme souvent en colère. La gauche gouvernementale constitue dorénavant une de ses cibles principales. L'impopularité persistante des dirigeants socialistes français ne relève pas d'une exception nationale qu'on pourrait imputer à de mauvais chiffres de l'emploi ou au reniement méthodique des principaux idéaux de la gauche. L'épuisement d'un cycle idéologique, incarné il y a 20 ans par la Troisième Voie, de messieurs William Clinton, Anthony Blair, Felipe González, Dominique Strauss-Kahn, Gerhard Schröder, s'observe aussi aux États-Unis et dans la plupart des pays européens. Cette déroute d'un social-libéralisme longtemps triomphant ne profite plus exclusivement à des forces situées encore plus à droite. Elle s'accompagne depuis peu de la renaissance d'un courant contestataire dont on prétendait les idées dépassées, archaïques, balayées par la mondialisation, la flexibilité, les nouvelles technologies. Lire Les démocrates américains envoûtés par la Silicon Valley. Des campus américains aux banlieues de Londres, en passant par les municipalités de Madrid et de Barcelone, cette gauche décomplexée dispose dorénavant de relais politiques. Et elle ose parfois désigner ses ennemis. La mainmise du capital sur les moyens de production, lire pour la République sociale, le pouvoir des médias, la surpuissance de la finance. Bien sûr, les rebelles ne sont encore qu'une volée d'hirondelles en hiver. Mais, à une époque où la droite extrême occupe souvent le rôle de dépositaire de toutes les colères, ce rayon d'espérance pourrait bien lui disputer les saisons qui viennent. Décidément, les sociolibéraux n'ont pas de chance. À l'été 2015, avec le concours de Madame Angela Merkel, ils avaient soumis les dirigeants grecs de Syriza à un tir de barrage afin de les contraindre à rallier leur camp. Ils pensaient ainsi avoir liquidé toute opposition sur leur flanc gauche. Mais, coup sur coup, émergent messieurs Jeremy Corbyn au Royaume-Uni et Bernie Sanders aux États-Unis. Mobilisant une fraction appréciable de la jeunesse de leur pays, ils réhabilitent à la fois le combat politique et certaines des aspirations anticapitalistes que la Troisième Voie avait espéré enterrer. À cette déception s'en ajoute une autre. Jamais les sociolibéraux n'avaient capitulé aussi totalement, aussi irrévocablement, devant les desiderata du patronat, avec l'illusion d'en obtenir en retour la création de quelques emplois et un nouveau bail sur le pouvoir. Échec. Là encore. Le patronat en poche et la conjoncture se dégradent. Puis, alors que l'économie et la finance mondiale calent à nouveau, les principaux dogmes néolibéraux, adoptés depuis 30 ans par les sociolibéraux européens, viennent d'être invalidés par leurs architectes intellectuels d'autrefois. La chose s'est en fait à bas bruit. La droite, la gauche libérale et les grands médias peuvent feindre de n'avoir rien remarqué et continuer à suivre l'étoile du berger qui guide leurs pas chaque fois que tout autour d'eux se déglingue. À crise du marché, remède de marché. Toutefois, l'inefficacité de leur talisman habituel, baisse des impôts et des cotisations sociales, précarité plus grande, extension du libre-échange, est devenue patente. Et la démystification d'éléments centraux de ce credo a désormais recruté des ennemis de l'intérieur. Affaiblir les syndicats, démanteler le code du travail, devait libérer l'esprit d'entreprise et permettre la flexibilité. Deux économistes du Fonds monétaire international, FMI, ont récemment admis que le résultat de cette politique, longtemps défendue par le FMI, a surtout été de creuser les inégalités. Voilà qui est tout de même gênant au moment où la question d'un apartheid social occupe les esprits au point que les dirigeants occidentaux font mine périodiquement de s'en préoccuper. Le désir d'en découdre avec une gauche qui a capitulé sur à peu près tout. L'inégalité, ce n'est pas un mal, rétorquent néanmoins certains libéraux pour qui la dispersion des revenus encourage l'initiative, l'innovation, le risque, l'emploi. Les jeunes Français doivent avoir envie de devenir milliardaires, a lancé un jour le ministre de l'économie français, M. Emmanuel Macron, reprenant ainsi à son compte la vieille antienne réganienne d'une marée montante qui soulève tous les bateaux. Sans trop s'éloigner des métaphores nautiques, on appelle aussi ce postulat la théorie du ruissellement. Eh bien, pas de chance là non plus. L'an dernier, l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, a calculé que l'enrichissement des plus riches, un groupe qui compte au moins autant d'intermédiaires parasites que de patrons entreprenants, avait compromis la croissance économique à long terme, là où, au contraire, une amélioration des revenus des plus pauvres l'aurait accélérée. Enfin, avait recommandé Ronald Reagan, puis François Mitterrand, il fallait réduire les impôts pour relancer l'économie. Revendiqué solennellement par M. Hollande lors de sa conférence de presse du 13 novembre 2012, cette politique de l'offre devait par surcroît favoriser le rétablissement des comptes publics. Là, l'hebdomadaire britannique The Economist, bible du libéralisme mondial, vient de concéder, un peu piteux tout de même, que les prévisions selon lesquelles la réduction des impôts générerait assez de croissance pour être autofinancée semblent un peu irresponsables aujourd'hui. 30 ans de matraquage néolibéral flanqué par terre. Rien de tout cela, on le devine, ne dissuade les candidats de droite aux prochaines élections de doubler la mise. Pourquoi s'en priverait-il, en France, dès lors que M. Hollande ne cesse lui aussi de gaver les chefs d'entreprise de friandises? Et puis, quand le destin électoral d'un président de la République et de son parti semble scellé, cela encourage la franchise, aiguise les appétits. M. Nicolas Sarkozy envisage par conséquent un contre-choc fiscal qui comprendrait à la fois une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu et l'élimination de celui sur la fortune, ISF. Messieurs François Fillon et Alain Juppé endossent cette dernière proposition, tout comme celle d'une baisse massive des dépenses publiques, en dépit d'un chômage extrêmement élevé, de besoins d'équipements criants, 40% des voies et 30% des aiguillages du réseau de transport d'Île-de-France ont plus de 30 ans, et de taux d'intérêt proche de zéro. Pour atteindre leur objectif, ils suggèrent de supprimer des emplois de fonctionnaires, de réduire les allocations versées aux chômeurs et de ne plus rembourser certaines dépenses médicales des étrangers. En somme, au diable les repentances des officines néolibérales quand elles ne correspondent pas à l'intérêt des privilégiés et aux recettes auxquelles le social-libéralisme lui-même s'est rallié. Le refus des préconisations hérétiques devient d'autant plus impératif que la malédiction des experts frappe également le cœur du système, le point de convergence extrême entre libéraux de droite et de gauche, l'idéologie du libre-échange. Il était dit que les pertes d'emplois liées au commerce international dans un secteur seraient compensées par l'émergence, ou la croissance, d'autres activités plus productives. Or, même ce principe fondateur du libéralisme économique, la théorie des avantages comparatifs et de la spécialisation internationale, vacille à son tour. Lire la révélation de Saint Jean-Baptiste. La concurrence des produits chinois sur le marché américain aurait ainsi entraîné la perte de 2,5 millions d'emplois aux États-Unis. M. Sanders se juge donc d'autant plus fondé à condamner à la fois l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, ratifié en 1993 et défendu successivement par les présidents Clinton et George W. Bush, et le partenariat transpacifique, PTP ou TPP en anglais, signé le 4 février dernier par le président Barack Obama, avec l'aval de la plupart des élus républicains du Congrès. Imaginant peut-être que les Américains avaient déjà oublié les promesses mensongères de l'ALENA, le secrétaire d'État John Kerry vient néanmoins de prétendre que le TPP créerait aux États-Unis 650 000 emplois. Or, sur le front de la conjoncture mondiale, le ciel se couvre, ce qui est rarement prometteur pour les dirigeants en place. En 2007-2008, la chute des banques s'expliquait par l'effondrement de leurs actifs immobiliers. Aujourd'hui, leur surexposition au secteur pétrolier les menace des mêmes désagréments. Et, avec elles, bien des pays que ces banques continuent de tenir en otage. Car, n'en déplaise à ceux qui ont cru M. Hollande en 2012, le monde de la finance n'a jamais trouvé de véritable adversaire au sommet de l'État, mais plutôt des hommes empressés à le servir. Nul besoin, en effet, que la droite soit au pouvoir pour que ceux-ci contrôlent les ministères clés, M. Macron. Des banques ou des fonds spéculatifs recrutent par ailleurs d'anciens dirigeants socialistes dans leur conseil d'administration, messieurs Blair, Schröder, Strauss-Kahn, sans négliger pour autant de financer les campagnes de candidats démocrates, comme celle de Mme Hillary Clinton en ce moment. Que signifient ces impostures politiques, cet acharnement dans l'erreur? Et qu'annonce-t-il? Que le social-libéralisme a épuisé la force que lui conférait son alliance avec les classes dirigeantes. Plus puissantes que jamais, celles-ci ont moins besoin d'intermédiaires pour imposer leurs intérêts. Simultanément, les connivences entre anciens socialistes et nouveaux riches se remarquent davantage, irritent les populations qui en subissent les conséquences et se payent. Madame Clinton a défendu l'abolition par son mari de la frontière entre activités bancaires et spéculatives, une décision qui a contribué à la crise financière de 2007-2008. Elle était donc moins souriante que d'habitude lorsque M. Sanders lui a lancé « Quand des enfants sont pris avec de la marijuana, ils sont fichés par la police. Mais quand un cadre supérieur de Wall Street détruit l'économie, rien ne lui arrive. C'est ça le pouvoir, c'est ça la corruption, et c'est ça qui doit changer aux États-Unis. Trois de nos quatre principales banques sont aujourd'hui plus puissantes que quand nous les avons secourues, parce qu'elles étaient déjà trop grosses pour faire faillite. Too big to fail. Il faut les briser. Elles sont économiquement trop puissantes. Elles sont politiquement trop puissantes. » On comprend qu'au lendemain des primaires du New Hampshire, remportées par M. Sanders et M. Donald Trump, un analyste financier se soit inquiété. Après ce qui s'est passé hier soir, les investisseurs ne peuvent plus exclure l'hypothèse d'une issue électorale extrême qui entraînerait des risques majeurs pour le marché boursier. Un candidat démocrate qui entend briser les banques, un candidat républicain qui menace la Chine et le Mexique d'une guerre commerciale, voilà qui doit en effet sembler bien extrême aux États-Unis. À croire que, instruite par sa propre expérience des délocalisations industrielles, de la baisse du pouvoir d'achat, du coût croissant des études supérieures, une partie importante de la population américaine opère brutalement la vidange de 30 ans de pédagogie de la mondialisation. En compagnie de millions de jeunes qui n'ont pas subi le bourrage de crâne de la guerre froide, elle manifeste son enthousiasme pour un candidat qui pourfend la classe des milliardaires, jure de dynamiter le mode de financement des campagnes politiques et même se proclame socialiste. Cette impatience, ce désir d'en découdre avec une gauche qui a capitulé sur à peu près tout, se retrouve en Europe. En Espagne, le Parti socialiste, discrédité par ses baronnies locales et par les scandales de corruption, vient d'enregistrer le plus mauvais résultat de son histoire pendant que les contestataires de Podemos déboulaient sur la scène sociale et politique. Quand le bipartisme est détruit, le jeu s'ouvre. À Madrid, Barcelone, Saragosse, des municipalités débordant d'imagination s'opposent aux expulsions, s'en prennent aux banques, remunicipalisent leurs services, engagent un audit de la dette. La déroute électorale des travaillistes britanniques en mai dernier ne s'est pas davantage accompagnée, comme c'était l'usage en pareil cas, d'un coup de barre à droite. Le blairisme a au contraire été répudié par des militants dont le nombre a doublé et dont les effectifs égalent à présent ceux de tous les autres partis réunis. L'élection de M. Corbyn a ainsi démontré le désir de préserver l'identité travailliste d'une formation qui s'en était presque totalement détachée. Comme M. Sanders, le nouveau dirigeant du Labour, congédie les artifices de la communication en s'exprimant longuement lors de meetings à l'ancienne, sans redouter de fustiger les grands médias qui le haïssent. Nul ne met en doute sa sincérité lorsqu'il détaille ses idées, sa philosophie, plus soucieux d'infléchir radicalement les termes du débat politique dans son pays que de gagner les prochaines élections à tout prix. Aujourd'hui, se réjouit M. Jean-Claude Trichet, ancien gouverneur de la Banque de France puis de la Banque Centrale Européenne, Nous avons un quasi-consensus au sein des grandes sensibilités politiques du gouvernement sur au moins 3 points. Nos dépenses publiques doivent diminuer, notre économie a encore beaucoup trop de rigidité et nous ne sommes pas assez compétitifs. Si le quasi-consensus des dirigeants crève les yeux, ses résultats aussi. Monsieur Trichet est assurément incapable de les comprendre, mais ceux qui se cabrent sont de plus en plus nombreux. Rien ne leur sera concédé. Ainsi, après avoir soumis la Grèce, l'Union européenne cible à présent le Portugal. À la tête d'une fragile coalition, relève le Figaro, Antonio Costa, le chef du gouvernement socialiste, a promis à son allié communiste et aux Portugais, épuisé par des années de récession, de desserrer les taux de l'austérité. Sauf que les garants bruxellois du pacte de stabilité ne l'entendent pas de cette oreille. Sous la pression européenne, surtout du gendarme allemand et des marchés, le gouvernement portugais a dû revoir sa copie. En revanche, lorsque le gouvernement conservateur de M. David Cameron a exigé que ses partenaires européens protègent les intérêts de la City des effets de la monnaie unique et que Londres soit autorisée à réduire les aides sociales dues aux travailleurs migrants membres de l'Union, la copie britannique n'a pas dû être vue. Et les sociodémocrates du vieux continent, M. Hollande en tête, ont entériné cette préférence nationale, ces transgressions des règles communes. Depuis plus de 30 ans, tous proclament pourtant que la priorité, c'est l'Europe sociale. Agir plutôt que subir, s'ébranler plutôt qu'attendre. Entre de tels gouvernements et la gauche, le divorce est consommé. Il s'observe dans les urnes, il s'observe dans la rue. Le statu quo et ses hommes sont rejetés, leur assise politique se réduit. La certitude que ce système est devenu irréformable, que les inégalités ne peuvent que s'y creuser, que les crises ne lui apprendront rien, infuse désormais dans la société. Et l'amoncellement de reniements qui marque dans presque tous les domaines la fin de mandat du président français en acquiert presque une valeur pédagogique. Car chacun imagine déjà le sentiment de désespoir qui glacerait le pays au lendemain d'une éventuelle réélection de M. Hollande ou d'une revanche de M. Sarkozy. Dans une telle configuration d'ensemble, la prise de risque devient tentante, à moins d'en réserver l'initiative et l'avantage à la droite extrême. Le terrorisme et la guerre maintiennent un semblant de cohésion nationale, mais le déclassement social et le rétrécissement de l'avenir ne feront pas durablement bon ménage avec la stabilité politique. C'est tout cela qu'expriment à leur manière les nouvelles figures de la contestation. Leur pas est assuré, leur destination incertaine. Mais les points de bascule historiques ne constituent-ils pas précisément ces moments où il faut agir plutôt que subir, s'ébranler plutôt qu'attendre?
Thank you. night comes.